Ce podcast vous est proposé par ES1, la chaîne e-sport.
Bienvenue sur le Mac Jeux Vidéo. Oui, vous le savez, c'est ici votre rendez-vous hebdomadaire sur ES1 qui revient sur l'essentiel de l'actualité gaming. C'est pour vous, c'est tout offert. Et cette semaine, on a encore un beau casque puisque c'est Indy qui est de retour parmi nous. Comment tu vas?
Mais ça va très bien. Voilà, normalement, je suis de ce côté-là de la table, mais là, je viens en renfort sur les news, mais avec
Exactement.
Grand plaisir. Hein, avec grand plaisir.
C'est notre newser de la semaine et ça fait très plaisir. Et de l'autre côté, c'est un habitué. On est encore ravis de le retrouver. C'est notre Jay. Comment ça va?
Ah, salut à tous.
Salut tout le monde.
Voilà, tout le monde.
Oui, c'est pas ça va, c'est salut.
Voilà.
Tout est très bien. Bon, vous l'avez compris, oui, on a encore un beau programme cette semaine avec Indy, puisqu'au niveau des news, on parlera de PlayStation. Il se passe beaucoup de choses de ce côté-là. Il y a d'abord Jeanne Raymond qui vient de fonder son propre studio, mais aussi le Play at Home qui est de retour et qui nous proposera des jeux gratuits. On découvrira lesquels. Et en parlant de découvertes, une autre petite découverte que PlayStation nous a offert, c'est sa manette PSVR 2 qui n'est pas prête de sortir, mais en tout cas, on a déjà un aperçu de ce à quoi elle ressemblera. Ensuite, on passera sur une autre news, cette fois-ci avec Sony, encore une fois, mais aussi Tencent et Square Enix qui ont décidé d'investir dans le cloud gaming auprès d'une certaine société. On vous fera découvrir de laquelle il s'agit exactement. Et puis ensuite, on arrivera sur le Square Enix présent, puisque oui, Square Enix a tenu son premier événement numérique lui aussi de son côté. Et on reviendra un petit peu sur toutes les annonces qui ont été faites au cours de cet événement. Et on terminera avec quelque chose de très court, mais de très précieux, puisque oui, Indy vous révélera le grand secret de comment jouer à Breath of the Wild. Fameuse Zelda, mais à la première personne apparemment. Ensuite, on va enchaîner avec notre dossier de la semaine. Cette fois-ci, c'est Jay qui va nous parler de Mortal Kombat, le film. Il a eu l'occasion d'en voir quelques minutes, des précieuses minutes qu'il va nous décrypter plus en détail. Et on terminera bien évidemment avec la traditionnelle question de la semaine. Ghost of Tsushima en open world, l'un des jeux les plus terminés. Mais pourquoi? On va le découvrir avec vous et en fin d'émission. Mais d'abord, vous le savez, c'est les news avec Indy, c'est tout de suite. Cette semaine, on a beaucoup de news une fois de plus, et cette fois-ci, la première news, elle concerne Jade Raymond. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler qui est cette personne?
Mais tout à fait. Alors, Jade Raymond, ça fait partie des personnalités quand même qui sont assez connues et respectées dans l'industrie, notamment parce qu'elle a participé à la création de deux très grosses licences qui viennent du côté d'Ubisoft, donc Assassin's Creed et Watch Dogs. Elle a aussi participé à la création de l'un des Splinter Cell, qui est cette grande licence d'infiltration, mais elle est aussi connue pour pas avoir énormément de chance ces dernières années au niveau de ses projets. Donc là, en fait, il y a quelques années, elle devait faire un gros jeu Star Wars avec Electronic Arts, mais qui a finalement été annulé après des années de développement. Entre-temps, elle a rejoint l'écurie Google pour les studios Stadia, dont on a appris la dissolution, la fermeture, il n'y a pas très longtemps.
Très peu, effectivement, voilà, mais du coup, il y a du rebondissement dans sa vie.
Il y a du rebondissement là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a fondé en fait un nouveau studio. On l'a appris sur le blog officiel de PlayStation. Donc, ce studio, il s'appellera Haven. Et donc, alors, on ne sait pas pour l'instant si ce sera des jeux qui seront exclusifs à PlayStation. On sait en tout cas que ce studio recevra le soutien du constructeur, un studio qui sera basé à Montréal et donc qui travaille sur un nouveau jeu. Donc, évidemment, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. On sait seulement que Jade Raymond et son équipe veulent créer des mondes où les joueurs peuvent s'échapper, s'amuser, s'exprimer et trouver une communauté. Donc voilà, pour l'instant, pas plus de détails.
Belle promesse,
c'était juste
en tout cas,
la petite info pour dire que Jade Raymond est de retour, on l'espère cette fois, avec un projet qui aboutira.
Qui aboutira, c'est sûr. Toi, ça te paraît être une bonne nouvelle? Je ne sais pas si Assassin's Creed ou Dead Cells, c'était des jeux qui t'ont inspiré, qui t'ont parlé.
En soi, si, mais c'est vrai que quand on voit un peu la carrière de cette personnalité du jeu vidéo, t'as envie qu'à un moment donné, il y ait un projet qui sorte.
Quelque chose qui se
passe, quoi. Mais là, c'est un peu l'espèce de chant du cygne à chaque fois qu'elle arrive ou qu'elle crée quelque chose. Et du coup, c'est un peu dommage parce que c'est quand même un nom un peu ronflant du jeu vidéo. Et t'as envie de voir ces gens-là réussir. Donc, je lui souhaite plein de bonnes choses.
Que le meilleur.
En attendant justement de savoir sur quoi il travaille, parce que c'est un peu le plus important.
Eh bien, justement, on va bientôt savoir sur quoi il travaille. Mais avant, on va faire un petit point sur le Play at Home. C'est ce que PlayStation avait mis en place pour permettre aux gens qu'ils soient abonnés PlayStation Plus ou non de faire l'acquisition de plusieurs jeux. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle liste qui soit mise en place.
Oui, tout à fait. Donc, il y a 9 nouveaux jeux qui arrivent dans le Play at Home. En fait, début, là, il y a quelques semaines, on avait eu le Ratchet & Clank de 2016. Donc, un petit peu refonte, un relecture du premier jeu de la licence qui était sorti, gratuit d'ailleurs jusqu'au 1er avril, donc voilà, si vous voulez en profiter. Et allez-y. Comme le disait Lox, cette offre ne nécessite pas le PS Plus, donc voilà, ouais. Voilà, pas besoin d'abonnement payant.
Il y a tous les jeux qui sont à l'écran, qui sont affichés, qui sont disponibles.
Tout à fait, ouais, tout à fait.
À partir de quand ?
Alors, ils sont disponibles à partir du 20 avril et jusqu'au 15 mai. Et à partir du moment où vous les avez téléchargés, hein, vous les obtenez indéfiniment. Donc vraiment, ça vaut le coup.
Mais votre jeu, il vous appartient définitivement.
C'est
et ça.
Ça
fait tout bonnet.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Ça valait enfin une bonne raison de rester à la maison et de continuer à prendre de soin. Et justement, il y a encore une autre petite dernière news qui fait bien plaisir. On va aller un petit peu vite dessus. Mais attention, c'est la nouvelle manette PlayStation VR, PSVR 2, qui est en préparation chez Sony. Qui n'arrivera pas cette année. Mais en tout cas, ils nous ont dévoilé le modèle, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, ils ont dévoilé un peu plus parce qu'il y a quelques temps, on avait appris en tout cas que Sony et PlayStation étaient toujours en train de travailler sur la réalité virtuelle, qui n'arrivera pas en 2021. Donc ça, en tout cas, on est sûr. Mais on a ces manettes qui font vraiment penser à ce que fait Oculus au niveau des Oculus Touch, donc avec une forme très arrondie, en forme d'orbe. On nous parle de plein de technologies qui sont super cool. Voilà, les gâchettes adaptatives, donc ces retours de force dans les gâchettes, les retours haptiques pour avoir des vibrations nouvelle génération qu'on a déjà sur la manette de la PS5, la DualSense, et donc tout ça qui arrivera dans ces manettes qui sont quand même...
Petit détecteur de doigts, donc
ouais,
ça a l'air
ouais,
quand même...
Ça, petit détecteur, bah,
en tout cas, ce sera
voilà,
bien mieux que
pointe, quoi.
Qu'il y avait précédemment, et là, ça donne envie aussi d'aller franchir un petit peu le cap du côté de la VR de Sony. Je sais pas si toi, ça t'inspire un peu.
Justement, c'est vrai que j'avais toujours ce problème-là de jouer avec le casque, et puis t'as une vraie manette dans les mains, traditionnelle, ou alors t'as le PS Move... Et je n'étais pas forcément jouasse avec cette idée-là, mais là, s'ils proposent vraiment une manette qui est adaptée, c'est-à-dire que les jeux vont pouvoir aussi capitaliser sur ça. Et quand je pense à Resident Evil 7 qui était intégralement jouable en VR, mais tu étais au pad,
voilà, si tu as vraiment. Hitman,
ça ne marchait pas super bien. Mais c'est vrai que d'utiliser une corde de piano, comment dire, pour endormir son voisin avec des manettes pensées pour, pourquoi pas. Mais je veux dire, au moins, tu es dans cet univers-là, tu es vraiment immergé et tu as les deux pieds dedans et tu n'es pas juste à moitié dans l'univers.
Donc on y croit, on veut, on attend avec impatience. Et justement, on va rester un petit peu dans un couloir Sony, Tencent et Square Enix qui apparemment viennent d'investir auprès d'une société du nom d'Ubitus, une société dédiée au cloud gaming. C'est qui cette société ? Elle vient
oui,
d'où
donc
exactement ?
Une société taïwanaise du nom d'Ubitus, oui, donc qui est spécialisée, tu viens de très bien de le dire, ma chère Lox. Donc des solutions pour le cloud gaming, donc qui permet en fait de jouer à des jeux vidéo à distance quand la connexion internet est suffisamment bonne. Et donc qui est dans le milieu quand même depuis 2007, hein, depuis un certain temps. Donc on peut imaginer qu'elle a vraiment acquis une expertise, savoir-faire dans le domaine. Et donc on a des très grosses entreprises du jeu vidéo, le géant chinois Tencent, Sony et Square Enix, qui ont investi dans cette entreprise. Donc, on ne sait pas encore pour l'instant le montant. Il y a quelques rumeurs du côté de chez Bloomberg, notamment, qui parlent d'investissement.
Mais vu les sociétés, on s'attend quand même à ce que ce soit plutôt un bel investissement de
tout
leur
à fait.
Part, surtout vu le secteur aussi.
Tout à fait, parce que le cloud gaming, en fait, on pensait que ça allait être vraiment un petit peu quelque chose qui allait changer l'industrie avec l'arrivée de Google. Pour l'instant, c'est un peu plus contrasté que ça. Mais il y a en tout cas des choses qui se développent du côté de chez Microsoft, du côté de chez Sony aussi, avec le PS Now. Et on peut imaginer qu'avec des offres par éditeur, des offres d'abonnement qui permettent de jouer à leur jeu directement, chacun pourra avoir ses solutions pour jouer à distance, en fait, sans téléchargement grâce au cloud gaming.
Intéressant à surveiller ce petit point. On ne l'avait pas vu venir, mais très intéressant. On va rester justement chez Square Enix, hein, qui fait partie de cette liste d'investisseurs. Cette fois-ci, ce n'est pas pour un investissement, mais c'est plutôt pour l'événement qu'ils ont présenté il y a de ça quelques jours maintenant.
Ben oui.
Et des belles annonces, justement. C'était leur premier événement numérique, le Square Enix présente. Qu'est-ce qui s'est passé, Indy ?
Et ben, les deux gros noms qu'il y a à retenir de cette présentation, c'est ben, notamment Life is Strange True Colors, donc, qui est le nouvel épisode de la série de jeux qui a été initialement lancé par un studio Dontnod,
français oui.
D'ailleurs. Donc là, ici, c'est Deck Nine qui avait fait en fait une sorte de petit spin-off qui était sorti entre deux épisodes majeurs. Et donc voilà, on pourra suivre les aventures d'Alex Chen qui devra enquêter sur la mort de son frère Gabe dans un petit village américain de Haven Springs.
Le bon scénario de Life is Strange. Alors, la seule petite différence, il me semble, c'est que c'est l'équipe derrière Before the Storm
qui ont
développé ce nouveau numéro.
Voilà.
Et il y a aussi, surtout, un grand secret qui a été dévoilé, puisqu'il y avait un nom de code jusqu'ici, ça s'appelait Projet Atia.
Voilà.
Qu'en est-il maintenant ?
Eh bien, écoutez, Project Atia qui a été présenté lors de la conférence dédiée à la PS5 en juin 2020. Maintenant, on a son vrai nom, ce n'est plus un projet, c'est Forspoken, donc ce RPG fantasy qui avait fait quand même déjà forte impression lors de sa présentation. Alors, pour l'instant, ça reste très obscur pour ce que sera le jeu.
On
sait que ce sera un RPG fantasy, on reconnaît bien la patte de Square Enix, hein, très orienté Final Fantasy. Bah, d'ailleurs, le studio
science-fiction.
Ouais, c'est ça.
J'ai science, je veux dire science. science, mais science.
Et oui, donc le studio qui bosse derrière Luminous Production avec son moteur de jeu Luminous Engine, qui avait bossé notamment sur Final Fantasy XV. Donc là, on va retrouver leur patte pour un jeu qui est annoncé pour 2022 sur PC et PS5 et qui donne, en fait, au vu de ces images, quand même plutôt envie, quoi.
Plutôt beau, qui donne envie. Je sais pas si toi, Jay, comment t'as réagi devant cette annonce, enfin, de dévoile ce projet.
Je suis chaud.
Genre,
j'ai vu les premières images, j'ai dit non, mais de la dark fantasy japonaise, déjà j'achète. D'accord. Ça fait toujours penser, tu vois, à des inspirations comme Berserk ou autre.
Ouais, ça
j'attends de voir, ouais, ça me parle vraiment. Et puis, on savait pas trop ce que le projet allait vraiment proposer. Et là, on sait que c'est du monde ouvert, de l'action RPG, etc. Après, à voir s'ils tombent pas dans les travers, certains travers que pouvait avoir FF15.
Oui.
Je pense pas.
Mais il a l'air différent. Il a l'air déjà un peu plus sombre à mes yeux. Mais t'as raison, il a attisé en tout cas beaucoup de curiosité déjà sous le nom de Projet Atia. Maintenant qu'il est dévoilé, on a l'impression qu'il y a encore une nouvelle hype qui est en train de se créer. Et c'est tout bien joué pour Square Enix.
Bah oui.
Et justement, en parlant de hype, il y a un jeu pour qui la hype ne s'est jamais éteinte, c'est Zelda Breath of the Wild. Vous le savez, les joueurs s'amusent chaque semaine à trouver de nouvelles techniques pour battre les boss. Et des fois, il arrive qu'on découvre certaines choses, notamment un bug indie. Tu me dis qu'il y a un bug pour jouer à la première personne à Zelda Breath of the Wild. Comment on fait ?
Voilà, c'est ça. Donc en fait, la manipulation, elle a l'air assez simple, en tout cas, de ce qu'on voit. Donc, il suffit de pointer la caméra pour passer à la première personne, de revenir dans l'inventaire pour prendre un objet, puis ensuite de maintenir l'objet sur soi. Et donc, ça permet de découvrir le jeu sur un tout nouvel angle. Faut savoir
qu'il y a... Donc on prend juste sa petite caméra, appareil photo, un objet de l'inventaire, on le jette et ça y est.
Voilà. Donc en théorie, c'est aussi simple, en tout cas.
D'accord.
Il y avait déjà eu quelques modes qui permettaient en fait de faire ça. Là, pour le coup, c'est vraiment un bug dans le jeu, donc vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Et la manipulation a l'air...
C'est un bug totale.
C'est ça. Et puis après, il ne reste plus qu'à enfiler les petites lunettes en réalité virtuelle.
Nintendo.
Et puis après, c'est bon. Hein.
Ah, donc là, tu viens de nous sortir Breath of the Wild en VR. Merci, Indy. C'est toujours plus. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si toi, ça... Tu as fait Breath of the Wild ? Pas du tout. Hein.
Non.
Et en première personne, toujours pas.
Non, je trouve ça... justement, je suis content de voir que le jeu continue à plaire et que l'intérêt est toujours aussi grand pour ce titre-là. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas forcément le temps et que je me suis investi sur d'autres jeux. Mais je trouve ça génial que les gens aient gratté encore ce jeu qui a l'air genre infini en termes de petits trucs. Il y a toujours une petite chose chaque semaine, chaque mois. Je pense qu'en 5 ans, on découvrira encore des choses. Et du coup, bravo à Nintendo pour justement avoir ce genre de projet complètement dingue.
C'est sûr, on en veut plus, on est d'accord à l'unanimité. Et d'ailleurs, en parlant de choses qu'on aimerait voir, moi, il y a un film que tu as commencé à voir que je souhaiterais voir. On va en parler tout de suite avec toi dans le dossier de la semaine. Alors, Jay, toi, petit privilégié, a eu l'occasion de regarder le film Mortal Kombat. Bon, tu as eu quelques minutes du film. Mais justement, on sait que ce film va sortir, on vous a déjà peut-être dévoilé le trailer. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce film ? Déjà, est-ce que tu peux le recontextualiser ? Comment ça se passe ?
D'accord. Donc, en fait, on a vu les 13 premières minutes du film en avant-première. Ils avaient déjà sorti un trailer en février, mi-février. On avait interviewé une première fois l'acteur principal, Lewis Stan. C'est un acteur que tu as pu voir dans Into the Badlands ou encore Wu Assassin, une série Netflix. Et là, cette fois-ci, on a donc vu les 13 minutes et on a pu interviewer à la fois le réalisateur, Simon McCoy, et un des producteurs, Todd Garner. Et en plus, on a eu James Wan, qui est le réalisateur d'Aquaman, de Saw, mais aussi de Fast and Furious 7, qu'on a pu interviewer par email. Et donc, du coup, on a fait comme ça un petit article qui synthétise un peu l'essence, le projet. Mortal Kombat, le film de 2021, est un reboot du film de 1995.
Le meilleur.
Il est ancré dans sa génération. C'était pas une mauvaise adaptation. Mais là, ils vont dans quelque chose de très différent. C'est-à-dire que si le film de 95 était pour les gamins de 10-15 ans qui aimaient bien la licence, le film de 2021 est pour ces gamins-là de 95, mais compris 20 ans.
Donc ouais, c'est toujours pour cette même cible qui a adoré justement tout le lore et l'univers de Mortal Kombat qui aujourd'hui revient d'une certaine façon mis au goût du jour aussi, j'imagine.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que la licence a évolué depuis 30 ans, elle date de 92. Le film, en fait, il était de 95, était très kitsch. Ancré 90s à fond.
Son époque, un peu séribé, comme on faisait d'antan. Hein.
Et les jeux ont évolué, sont allés vers quelque chose de beaucoup plus cinématographique, surtout dans la dernière trilogie de NetherRealm, qui est le studio de Warner qui travaille sur les Mortal Kombat, mais aussi sur la série Injustice, de jeux de combat, pour DC. Et du coup, ils ont essayé d'évoluer dans le même sens. On est sur un film qui est beaucoup plus brutal, viscéral. Le film est donc classifié Rated R, Ça veut dire, en gros, moins de 16 ans. Interdit au moins de 16 ans aux États-Unis. Il faut être accompagné, etc. On sait qu'il sort mi-avril aux États-Unis, à la fois sur HBO Max et dans les salles de cinéma. En France, on n'a pas encore de date officielle.
Bah oui.
Voilà. Parce qu'ils aimeraient le sortir dans les salles de cinéma, mais après, si les salles de cinéma ouvrent, qu'en 2022, ils vont se décider à le sortir à un moment donné, le film. Donc, on ne sait pas encore. Ce qui est assez chouette, c'est qu'ils ont vraiment une vision, comme je disais, à la fois brutale, viscérale, sanglante. Il va y avoir de la fatalité pour les gens qui sont inquiets.
Après, c'est vrai que tu le mentionnais, c'est moins de 16 ans. Bon, ça s'appelle quand même Mortal Kombat. On peut s'attendre quand même à quelques effets un peu sanglants.
Ah, mais on le voit dans le trailer. À un moment donné, Sub-Zero, il gèle du sang qui transforme en kunai. Comment dire, pour jouer les ophtalmos avec un autre personnage. Et c'est tout à fait le concept, mais les fatalités, elles sont inspirées des jeux, mais ils essayent de les ancrer dans une diégèse cohérente du film.
Tu viens de me rappeler une vague scène dans le film Saw, et bizarrement, on sait que le réalisateur du film est dessus. Donc comme quoi, oui, ça colle complètement.
Et du coup, c'est ça qui est super intéressant, c'est que il va y avoir ces fatalités, il va y avoir du gore, mais surtout, c'est un film de bagarre. Mmh. Mortal Kombat, c'est un jeu de combat. Ça paraît bête à dire comme ça, mais t'auras un vrai film d'arts martiaux fantastique dans l'univers de Mortal Kombat avec tout ce que cela implique. Moi, j'ai vu les 13 premières minutes, et les 13 premières minutes, c'est l'affrontement entre Sub-Zero, a.k.a. Bi-Han, et Scorpion, a.k.a. Enzo. Ces espèces de deux persos qui sont
au charisme,
voilà, assez dingues et oui. Qui peuvent pas se piffrer, pour être poli. Et du coup, tu vois cet affrontement-là. Et c'est ultra violent. En plus, tu as des acteurs, par exemple, celui qui joue Sub-Zero, c'est Joe Taslim. Alors, pour les amateurs de bagarre, c'est le capitaine de police dans le film The Raid de Gareth Evans. Et The Raid, c'est un peu le film qui a tout repensé en termes de film de baston avec John Wick pour le côté occidental. Et ils ont été piochés des acteurs qui savent se battre. Todd Garner disait, dans Mortal Kombat, tu peux pas te cacher, et les acteurs non plus. Et il voulait pas des acteurs qui soient doublés. Parce que quand tu mets une doublure dans un film de bagarre, t'es obligé de faire des cuts.
Cut de ces
et l'avantage d'un film comme The Raid, c'est que tu tournes autour de l'action et quand ça cut, c'est que c'est nécessaire. C'est pas qu'il fallait que tu caches, en fait, c'est pas un cache-misère. Et c'est ce que tu ressens là. Et tu sens que le réalisateur est à fond dans cette idée-là. En plus, c'est super intéressant parce qu'ils ont un peu dit « Si ça marche bien, on aimerait bien faire un MKCU, donc un Mortal Kombat Cinematic Universe. » Tu dis « Ah, ça pourrait être carrément stylé. »
Je ne sais pas si toi, Indy, justement, Mortal Kombat, ça fait partie un peu des jeux de combat que tu as appréciés ou justement tu étais plus team jeux de combat japonais.
Non, bon, pas vraiment. Je n'ai pas forcément un attachement particulier à cette série. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment le sentiment que le film essaye d'ancrer en fait, la licence Mortal Kombat dans une forme de réalité. Parce qu'il y avait eu, pour pas mal d'adaptations de jeux vidéo, ce travers de, en fait, on va faire un film, mais on va essayer de retranscrire un petit peu les codes du jeu vidéo dans le film. Ouais. Et je pensais notamment à l'adaptation de Doom, notamment, où tu avais cette séquence à la première personne, en mode « Oh, regardez, c'est le jeu, c'est fantastique, c'est la première personne. » Alors que là, il y a vraiment ce côté, en fait, on reprend ce qui fait le charme sanglant et la baston de l'univers, et on va essayer de rendre ça crédible pour un film. Et du coup, c'est vraiment toi ce qui ressort de ce que tu as vu. Quoi.
En fait, vraiment, c'est un film d'arts martiaux dans un univers fantastique et en conservant l'approche ultra gore, mais pas. Tu peux, quand c'est cartoon, aller dans l'excès. Tu vois, genre Bip Bip et le Coyote, tu le mets dans la réalité, c'est ultra glauque. Et là, c'est pareil avec Mortal Kombat. En fait, ils poussent les potards au maximum tout en restant cohérent. Et c'est pas un monde réel, c'est pas le réel comme nous on le connaît, mais c'est cohérent dans le monde de Mortal Kombat au cinéma. Et c'est ça qui est dingue. En plus, il y a
Y a un équilibre en fait qui s'est créé entre les deux. Ça fait pas trop, ça fait pas kitsch, ça fait pas trop gamer.
Attention, de ce que j'en ai vu.
De ce que tu as pu voir.
J'ai vu
de
les 13
minutes.
Premières minutes du film. Donc c'est l'intro avec, comme disait Scorpion et Sub-Zero. Ça m'a bien hypé. En plus, on sait qu'il y a pas mal de persos. Il y a au moins une quinzaine de combattants, sachant que certains n'ont pas été dévoilés dans le trailer. Il y en a encore qu'on connaît pas. Le seul grand absent, c'est Johnny Cage. Beaucoup de gens s'en plaignent de cette absence. C'est un personnage iconique. Et Todd Garner, donc le producteur, s'est défendu vis-à-vis de cette absence en disant que le perso est tellement iconique, tellement charismatique qu'il mériterait son propre film. Que
ce MCU, soit dans une suite
ou dans un spin-off. Et du coup, ils ont fait un autre choix. Ils ont créé un personnage de toutes pièces qui s'appelle Cole Young. C'est un combattant de MMA, donc Mixed Martial Art. Pour les amateurs du Pride ou de l'UFC, vous savez de quoi je parle. Et il est donc interprété par Lewis Tan. Et pourquoi ils ont mis un personnage inédit? C'est simple. Mais le film, il est adressé aux fans de jeux vidéo, mais aussi aux amateurs de films d'arts martiaux et de films de baston. et aux des amateurs de films d'action, grand public, divertissement.
Et sport de combat.
Voilà. Du coup, en ayant un perso qui ne connaît pas Mortal Kombat, eh ben, ça te crée une porte d'entrée. C'est quelque chose, le film devient tout d'un coup accessible puisque tu es obligé d'expliciter au personnage ce que tu dois expliciter au spectateur. Alors tu pourrais utiliser Sonya Blade, etc. Mais ils ont préféré faire ce choix-là, sachant que le perso est vraiment ancré dans le lore, mais on ne sait pas comment. Et on va le découvrir
on
dans le film.
On va le découvrir grâce au film.
Voilà. On sait simplement qu'il a une marque mortelle de dragon, et voilà.
Autre petite découverte, parce qu'on vient de relever l'absence d'un certain personnage, mais il y a aussi la présence d'une voix, une voix qu'on connaît très bien, une voix que vous connaissez vous aussi sur OS1, puisqu'il s'agit de Donald Renew, qui apparemment est un des animateurs... je crois même qu'on a un tweet... quelque part, hein, qui est l'un des animateurs notamment de l'émission Iris, que vous connaissez, mais qui s'est occupé surtout de toutes les voix VF du jeu. Et du coup, on le retrouve aussi là-dedans et on est plutôt content. Ça semble... Parce que toi, t'imagines que tu l'as vu en VO ?
C'est ça, moi je l'ai vu en VO.
Mais pour le moment, on a encore cette porte ouverte avec une bonne surprise du côté des voix françaises.
Et attention à un truc stylé, c'est-à-dire que Bian parle en chinois, Hanzo parle en japonais. Donc ils ont conservé aussi les langues des persos et c'est très drôle parce que les deux persos se parlent mais dans des langues qu'ils ne comprennent pas. Et ils le disent ouvertement, arrête de parler, je te comprends pas quoi. Et puis, voilà, mais je trouve ça génial dans le sens où il y a un vrai respect de ça quoi. Genre les persos, tout d'un coup ils vont pas parler en anglais, ça n'a pas de sens. Après, parce qu'en fait pour des raisons X et Y, ça se passe en 1600 à peu près quand ils s'affrontent et ça se passe dans les années d'aujourd'hui. Donc après, vous découvrirez pourquoi ils sont toujours présents 400 ans plus tard et pourquoi ils arrivent à parler anglais, du coup, ce genre de choses.
OK, mais ils ont l'air d'être allés assez loin et c'est je trouve ça vraiment bien qu'ils respectent un petit peu ce côté très, très réaliste, quoi. Donc, tu as une langue que tu ne comprends pas, tu ne vas pas... Parce que des fois, tu as ce truc où quelqu'un parle une langue et puis l'autre la comprend instantanément, tu ne sais pas trop pourquoi.
Là, les raccords sont plutôt logiques, c'est vrai.
Ouais,
c'est...
mais ça donne envie. Hein, et puis,
ça donne envie. Bah, c'est vrai qu'à partir du moment où l'authenticité de l'œuvre est plutôt bien respectée, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que vous aussi, ça vous a donné envie de le voir parce que là, oui, on est sur une unanimité totale sur ce plateau pour ce film. Merci beaucoup, Jay. On a hâte que ça sorte. Clairement, vivement que les salles de cinéma rouvrent ou que ça arrive en SVOD. Mais tout de suite, vous le savez, l'émission n'est pas encore terminé, il nous reste la question de la semaine. Et cette semaine, vous le savez, on vous l'a déjà donné au sommaire. On s'est posé une question suite à une information, puisqu'on a appris que 50% des joueurs de Ghost of Tsushima, le jeu de Sucker Punch, a été terminé par les joueurs, alors que généralement, sur un jeu open world, on est sur une moyenne dans les, allez, environ 30%. Qu'est-ce qui a fait justement, la différence avec ce jeu Ghost of Tsushima, d'après vous, pourquoi il y a plus de personnes qui ont terminé Ghost of Tsushima, Indy ?
Moi, je pense que ça vient aussi surtout de la navigation, en fait, dans le monde ouvert. On parlait de Breath of the Wild tout à l'heure, où il y avait vraiment cette navigation, entre guillemets, naturelle. En fait, on voit quelque chose, un point où on a envie d'aller, et on y va. Puis après, on a des sortes de repères visuels par rapport à la manière dont le monde est créé. Par exemple, une montagne qui va ressortir au loin, on va avoir envie d'y aller. Et c'est vrai que Ghost of Tsushima réutilisait un petit peu ses codes, en fait, et ce qui donnait, en fait, un monde ouvert dans lequel on avait vraiment envie de se balader. Et puis l'histoire est quand même assez accrocheuse, donc forcément... ça donne envie d'avancer. Donc je pense que c'est un petit peu pour toutes ces raisons.
Donc c'est un moyen plus simple d'avancer que par exemple un Assassin's Creed ou autre, où justement on a tendance à s'éparpiller, puis finalement on finit par lâcher et ne pas terminer le jeu.
Mais je sais pas en fait si c'est plus simple, mais en tout cas c'est différent. Et je pense qu'il y a
une
vraiment...
approche du coup de l'open world qui différencie vraiment.
Ouais, et qui a peut-être en fait donné envie aux joueurs, qui certainement des joueurs qui font beaucoup de monde ouvert, de terminer celui-là pour cet aspect voyage, pour ces mécaniques un petit peu différentes.
Et je ne sais pas si c'est un avis partagé de ton côté, Jay, ou tu vois justement une autre raison à ça ?
Bah, je pense aussi que c'est la manière dont les open world sont faits, mais aussi ce qu'il y a à faire dedans. Mmh. Et il y en a beaucoup, c'est aller collectionner telle ou telle babiole, ce genre de choses. Et peut-être que Ghost of Tsushima évite aussi cet écueil-là en évitant de démultiplier à l'infini même des quêtes random ou tu sais des événements éphémères,
ouais,
comme ça, où en fait t'as jamais terminé vraiment. Il y a des jeux qui se terminent, il y en a d'autres, c'est à l'infini qu'il peut se passer quelque chose. Mais un Breath of the Wild, encore une fois, il est quasi infini le jeu, tellement tu peux découvrir de choses, et c'est peut-être aussi sa beauté qu'un monde soit pas terminé comme le nôtre.
On peut aussi
Est-ce qu'on peut pas mettre le générique juste après ça, quoi?
Je ne peux plus rien rajouter voilà. De plus là-dessus, vous avez compris. C'était absolument parfait, oui, effectivement. Pourquoi terminer un monde qui, lui, ne l'est pas? Voilà. Merci beaucoup pour cette belle référence. J'espère qu'elle vous aura fait sourire aussi chez vous. Merci également à toi, Indy, pour les news cette semaine.
Mais de
vraiment,
rien, avec plaisir.
Performant. Voilà. On sait qu'on peut maintenant aussi tenter un open world comme Breath of the Wild en réalité virtuelle grâce au Nintendo Lab. Allez, il n'y a pas de limite, le monde n'est pas terminé. Par contre, l'émission, elle, si, vous l'avez compris. Mais on se retrouve très très vite, très prochainement. Un grand merci également à nos équipes techniques, qui sont toujours brillants, ils sont là, ils sont. Sérieux, c'est toujours un plaisir de les avoir parmi nous. Quant à vous, vous le savez, vous prenez soin de vous et vos proches. Et à très vite. Salut.
Ce podcast vous a été présenté par ES1, la chaîne e-sport. Disponible chez Orange, Bouygues Télécom, Canal+, SFR, Molotov, Amazon Prime Video et bien d'autres opérateurs. En même temps, il n'en reste plus beaucoup là.